Dieu soit loué, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une très bonne prière que notre frère vient d'adresser au Seigneur. C'est confier entre les mains du Seigneur. Et Dieu veut toujours quelqu'un qui soit entièrement dans sa main. Et quand tu es vraiment entièrement dans sa main, alors là, il y aura des choses. Les gens vont tout simplement s'exclamer en disant, mais ça c'est quoi? Parce que ça ne sera plus toi, mais c'est Dieu. Et Dieu, comme l'a dit encore les frères, je pense que dans la prière, alors il fait des choses inhabituelles, des choses qui étonnent, que Dieu nous assiste vraiment, afin que de telles choses-là, nous ne puissions pas juste à parler, mais que nous puissions les vivre. Le temps a sonné pour que nous puissions vivre de telles choses. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens 5, juste un verset d'abord, au verset 22. 1 Thessaloniciens 5, 22. Alors il est dit ceci. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Après, nous allons lire Exode 14, au verset 13. Ne craignez rien. Restez à place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. C'est ça que Dieu fait le plus jamais là. Amen. Ce n'est pas de temps en temps, nous voyons encore ces Égyptiens. C'était une bonne fois pour toutes. Hein? On les a laissés dans la mer Rouge là-bas. Ah, que tous ces mensonges qui nous enveloppent très facilement puissent rester complètement dans la mer Rouge. Que toutes ces médisances, oui, que aussi Dieu puisse dire à ce sujet, vous ne le verrez plus jamais. Amen, nous allons prier. Dieu notre Père, tu es Dieu et tu restes Dieu. Tu fais des choses inouïes, des choses inédites, des choses inhabituelles, pourvu qu'on puisse être dans ta main. Et ma prière à cet instant, Seigneur, c'est que tu puisses m'aider à être dans ta main. Tu me connais, tu connais tout ce qui est à moi et je ne suis pas digne de me mettre devant tes saints. Je suis un homme aux lèvres impures, mais toi qui es celui qui avait aidé ton serviteur Esaïe, Seigneur, te demande de m'aider, de purifier mes lèvres ainsi que toutes mes pensées, de m'aider afin que je puisse être juste un instrument dans ta main. Je te prie aussi pour mon frère et pour ma sœur, Seigneur. Ils ne se sont pas déplacés pour venir voir un homme. Ils ne se sont pas déplacés pour juste une écriture ou une citation de brochure. Ils se sont déplacés pour qu'ils puissent te voir, toi, la personne de Jésus-Christ. Permets que ce soit ainsi, Seigneur. Oh Dieu, écoute ces cris que nous ne cessons de lasser vers toi et interviens au milieu de nous seulement à cause de ta miséricorde, Seigneur. Puisque si tu nous regardes tel que nous sommes, alors tu vas tout simplement nous abandonner. Puisque nous ne sommes pas dignes, Seigneur, tu connais la matière dont nous sommes constitués. Et ça, toi, nous ne pouvons rien du tout. C'est pour cette raison que nous avons besoin de ton aide. Viens t'émouvoir au milieu de ton peuple. Merci, Seigneur, de nous l'accorder. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir maintenant. Voilà, ne craignez rien. Il a toujours ça comme parole d'assurance. Voilà, et nous allons commencer par relire un peu le Thessaloniciens 5. Thessaloniciens. Il dit ceci. On va un peu commencer, oui, voilà, au 22. 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Il y a le mal qui est là. C'est au singulier, le mal. Donc, il n'y a que seul mal. Il n'y a que seul péché. Et le péché en question, c'est l'incrédulité. Il n'y a pas plusieurs. C'est l'incrédulité. Alors, il ajoute espèce. Donc, tout ce que nous commettons là, vol, mensonge, ainsi de suite, ce ne sont que différentes espèces de mal, différents attributs du péché. Donc, parce que c'est la même bouche qui avait dit « ne vole pas », c'est cette même bouche-là qui dit « il ne faut pas mentir, il ne faut pas commettre adultère ». Alors, donc, il y a toute une série d'espèces de mal, donc les attributs du péché. Alors ici, il y a aussi, je vais aussi souligner tout. Il n'a pas dit une partie. Toute espèce. Donc Dieu n'est pas comme nous, nous qui avons l'habitude de catégoriser un peu le péché, les attributs du péché. Nous, il nous arrive de dire, mais bon, ici, il a exagéré. Ici, il n'a pas exagéré. Pour Dieu, non. Il n'y a pas d'exagération ou de pas exagération. Tout est péché, un point très. Alléluia. Tout ce qui est à contradiction avec la parole de Dieu, ça devient péché. Quelque petit que ça puisse paraître, c'est nous qui l'appelons petit. Parce que il y en a qui disent, bon, ça, c'est un petit péché. Hein. Ça, c'est le péché véniel. Ça, c'est le péché mortel. Ah, c'est nous qui disons ça. C'est ici que les gens de ce monde, ils ont même institutionnalisé toute une journée, hein, le 1er avril qui est déjà passé là, où vous pouvez quand même mentir. Mais un affaire de Dieu ne doit pas se mêler dans des choses comme ça. Ça, c'est pour les gens du monde. Ou alors les membres d'église. Nous ne sommes pas des membres d'église. Nous sommes des membres du corps de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dit là? Au verset 23, il dit, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il doit nous sanctifier tout entier, pas à partie. Dieu ne fait jamais les choses comme ça. Et le tout entier là, de notre être, c'est bien défini ici. C'est l'esprit, l'âme et le corps. C'est comme ça que nous sommes. Toutes ces parties-là, c'est moi, c'est toi. Esprit, âme et corps. Et tout ça, l'esprit, l'âme et le corps, appartiennent à Dieu. Il n'y a rien qui t'appartienne à toi. Il n'y a rien qui appartienne à moi. Oui, cela est bien écrit hein, dans 1 Corinthiens, je crois, 6. Que tout cela appartient à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est à vous? Et que vous avez reçu de Dieu, vous avez reçu ce corps de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La Bible est claire, hein? Appartiennent à Dieu. Cela veut dire que comme mon corps ici appartient à Dieu, je dois l'habiller comme Dieu le veut. Je ne dois pas l'habiller comme moi-même je veux. Puisque c'est un corps d'autrui. Alors il faut demander à Dieu, mais mon Dieu, comment tu voudrais que je puisse habiller ce corps? Il va te le dire dans sa parole. Sa parole est claire à ce sujet-là. Amen. Alors, il y a encore quelque chose qu'on peut ajouter là. Il dit au verset 24, c'est lui qui fera ça, c'est lui qui sanctifie. On va y revenir. C'est lui-même qui sanctifie. Attendez, c'était Salonicien. C'est lui-même donc qui sanctifie. Il faudrait peut-être relire pour que ça puisse. Je ne puisse pas être là pour lire et pour inventer des histoires. Donc, tout entier, et au verset 24, c'est lui qui vous a appelé infidèle et c'est lui qui le fera. C'est Dieu qui sanctifie, pas quelqu'un d'autre. Alors, et plus loin là, on a dit abstenez-vous. Alors, quelqu'un peut me dire, mais si c'est Dieu qui sanctifie, pourquoi je dois encore m'abstenir? Puisque s'abstenir, c'est vraiment refuser de faire le mal. Prendre la décision toi-même. Mais pourquoi alors on dit que c'est Dieu qui sanctifie? C'est Dieu qui doit le faire. Oui, c'est Dieu qui doit le faire. Mais alors, Dieu agit, mais tu coopères avec ce Dieu-là. Tu coopères avec lui comment? En aimant ce qu'il te demande de faire. Il faut aimer ça. Donc, c'est l'amour à toi, là, qui va te pousser à s'abstenir. C'est l'amour, c'est quelque chose de très, très grand. C'est quand tu aimes Dieu, tu vas dire, non, mais comment pécherai-je contre l'Éternel, mon Dieu? Puisque tu sais que même si tu pèches, il va te pardonner. C'est le Dieu des grâces, non? Et nous sommes très contents de ça. Mais pour rien au monde, je le ferai. Parce que ça va briser son corps, son cœur. C'est comme Branham le disait. Il dit, je sais, moi, je peux sortir d'ici, je peux aller tomber dans l'adultère. Je sais que Meda va me pardonner. Et c'est vrai, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je sais que ça va briser son cœur. C'est cet amour-là qui nous pousse à ne pas pécher. C'est une pression dans notre cœur. Cet amour nous presse. C'est bien écrit dans Philippiens. Philippiens 1, verset 1, 9, 11. On peut relire tout ça. C'est toujours bien de lire parce que déjà le fait de lire là, c'est une bénédiction. 1, 9. Ah, est-ce que c'est ça, oui? Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Cet amour doit augmenter de plus en plus. À connaissance et à pleine intelligence. Ce n'est peut-être pas ce que je cherchais, mais justement, quand il augmente là, plus cet amour augmente, plus la pression, puisque Paul a dit quelque part que cet amour nous presse. Puis plus la pression augmente de cet amour, plus vous avez le dégoût du mal, quand cet amour augmente, plus alors le diable aura difficile à vous entraîner dans le péché. Parce que vous allez dire, mais comment je vais faire ce que toi tu me proposes, diable? Hein? Contre l'Éternel qui m'aime tant. Contre cet Éternel qui m'a réveillé ce matin. Hein? Ce n'est pas moi qui me suis réveillé. D'ailleurs, il faut corriger le français. Quand on dit je me suis réveillé, non, c'est l'Éternel qui m'a réveillé. Alléluia. C'est lui qui m'a réveillé ce matin. Et toi, le diable, tu dis, voilà, commets un peu l'adultère. Il dit, non, Dieu ne sera pas content que je fasse ça. Je sais que si je fais ça, il va me pardonner, mais j'ai difficile à le faire. Parce qu'il m'aime tellement et moi je l'aime tellement. Alléluia. C'est ça. C'est une question d'amour. Amen. Et quand vous l'aimez justement, ça ne sera plus pénible, la parole de Dieu. Puisque c'est cet amour qui va tout le temps t'aider. Amen, amen. Voilà. Alors, on va un peu relire aussi Exode 14, 13. Exode 14, 13. Ne craignez rien. Restez à place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Alors, je souligne un peu le terme « délivrance ». Je souligne aussi le terme « plus jamais ». Et ça sera ça le sujet. Une délivrance totale et complète. Sera ça le sujet et j'ai soutiré ça de la brochure intitulée « Une délivrance totale ». Le frère Branham l'a prêché le 12 juillet 59. C'est au paragraphe 99, il disait « Nous voulons une délivrance complète et totale. » C'est ça que moi aussi je veux. C'est ça, c'est que tu dois vouloir aussi. Amen. Pas à partie, pas de demi-chrétiens, pas de chrétiens incomplets, mais de chrétiens un point un tout. Amen. Alors, un petit rappel. Donc, la fois passée, le sujet, c'était un cœur nouveau, un esprit nouveau, quelque chose comme ça. Donc là, je disais que Dieu a dans sa parole, en fait, un certain nombre d'instruments qu'il utilise pour nous sanctifier. Il y a eu l'instrument de châtiment. Quand nous sommes tombés dans quelque chose qu'il n'aime pas, comme lui n'est pas un grand papa ou il n'est pas un papa gâteau, il nous corrige. C'est pour que nous ne puissions plus revenir à ça. Oui, et aussi, il intervient aussi par des épreuves. Voilà, mais bon, je voulais que parler des épreuves aujourd'hui, mais je me suis dit, voilà, je vais faire une parenthèse pour montrer la manière de notre Dieu de nous délivrer de manière complète et totale, de nous sanctifier totalement. C'est ici que j'ai ce sujet. Alors, une délivrance, c'est quoi une délivrance? Une délivrance, c'est une action de libérer quelqu'un du danger ou d'un ennemi, d'une oppression, d'une maladie ou alors même du péché. C'est donc la sanctification, c'est aussi un processus de délivrance. Parce qu'il y a ces choses-là qui nous enveloppent très, très facilement, alors Dieu intervient pour nous délivrer de ces choses-là. Et à un moment donné, nous allons parler même comme Paul dit, mais ces choses-là étaient pour moi des gains. Mais aujourd'hui, j'en ai le dégoût. Ça, c'est Dieu qui a fait quelque chose. Ce dégoût-là, ce n'est pas toi qui la fabrique. C'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Alors, si je peux revenir encore, il dit, ne craignez rien, regardez à place et restez à place, regardez la délivrance. C'est quelque chose qu'on peut regarder, la délivrance. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est quelque chose que tu connais toi-même, que non, ici, le diable ne se joue plus avec moi. Mais là, j'ai encore des choses avec l'ennemi. C'est quelque chose que tu connais toi-même. C'est quelque chose que moi-même je connais. Je sais là où j'ai encore des combats. Je sais là où les combats ont diminué. Voilà. C'est comme justement, c'est Paul même qui l'avait dit. Avant, il avait des combats, mais après, il a dit, mais ces choses-là, c'est devenu comme de la boue pour moi. Amen. Alors, il dit, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. C'est vraiment, l'ennemi est bien identifié. L'ennemi d'Israël, c'était les Égyptiens. Est-ce que tu as aussi bien identifié ton ennemi, un péché qui t'enveloppe très facilement? Ou bien, tu es encore là pour dire non, non, ici, même si c'est leur message les dit non, ils ont exagéré. Tu n'as pas identifié. C'est cette chose-là que tu dis que, pour laquelle tu dis qu'on a exagéré, c'est ça qui va te tuer. C'est ça qui va t'entraîner à la mort. À partir du moment où Dieu dit ça, il n'y a pas à réfléchir ou à raisonner. Dieu sait ce qu'il dit. Même si, intellectuellement, ça n'a vraiment pas de sens. Vous voyez, par exemple, il dit à Moïse, il ne faut pas frapper deux fois les rochers. Mais ça signifie quoi? Quand il frappe deux fois, c'est vraiment un problème. Mais c'est Dieu qui l'a dit. Et à cause de ça, Moïse n'est pas entré. On ne sait pas intellectuellement ce que ça signifie. Mais spirituellement, on le sait. Ça va. Amen. Donc l'essentiel, c'est d'obéir. D'obéir à ce que notre Dieu nous dit. Alléluia. Amen. Donc, nous devons savoir identifier l'ennemi qui est en train de nous déranger. Cette jupe courte et fendue là-bas, est-ce que tu as identifié que c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que tu l'as identifié? Aussi longtemps que tu n'as pas identifié, mais il va continuer à te dominer comme ça. Tu n'en auras jamais un dégoût. Amen. Maintenant, une délivrance complète. Bon, en fait, une délivrance complète, une délivrance totale, c'est presque la même chose, mais il y a des petites différences seulement. Ces deux types de délivrance marchent pratiquement ensemble. Et pour la délivrance complète, l'accent, comme ça c'est dit là-bas, l'accent est mis surtout sur le processus achevé. Donc, tu n'es pas arrivé jusqu'au bout dans ta sanctification. Tu n'es pas arrivé jusqu'au bout dans ta foi. On peut montrer ça un peu, par exemple, dans la Bible. Jean 4. Jean 4, l'histoire de la femme au puits. Jean 4, au verset 41. Ça, la femme au puits a témoigné de Jésus. 41. Dieu, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et quand elle a témoigné, les gens ont cru. Ils ont eu la foi suite à la prédication. Comme maintenant, juste la prédication. On a la foi. Mais si c'est juste ça, ce n'est qu'une étape. Puisque derrière la prédication, il y a quelqu'un qui n'est pas de ce monde qui doit te révéler ça. Qui doit te convaincre. Si c'est seulement, bon, oui, c'est juste, c'est correct, c'est biblique. Si c'est juste ça, bon, c'est juste une étape. Donc, c'est ce qu'on appelle une foi intellectuelle. Ce n'est pas mauvais. Vous avez une foi parce que bon, vous avez lu ça dans la parole. Vous avez cette foi parce que vous l'avez entendu prêcher par un homme. Mais qu'est-ce que ces gens, comment ils ont évolué après? Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Ils sont allés plus loin. Car qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'avons attendu nous-mêmes. Je dois être à même d'attendre vraiment Dieu me parler au travers de la prédication. Je dois être à même d'attendre Dieu me parler au travers de la brochure que j'ai lue. Je dois être à même d'attendre Dieu me parler à travers de la Bible, des Écritures. Alors, quand c'est comme ça, c'est fichu, c'est très solide. Puisque tu as ce qu'on appelle la révélation. La chose dont Jésus a parlé à Pierre. Sur cette chose-là, je bâtirai mon église. Et les forces du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Le diable ne peut vraiment rien contre quelque chose que Dieu lui-même t'a révélé, t'a convaincu. Quand le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra du péché. Et là, quand il t'a convaincu comme ça, oui, c'est fini. Hein? Si tu es encore dans l'Égypte courte, là, c'est parce que tu n'as pas eu la chose encore. Quand Dieu va te révéler ça, tu en auras un dégoût terrible. Ça ne reviendra même plus. Et juste le fait de passer... Ah, moi, je faisais ça vraiment. Puisqu'une femme normale ne peut pas se balader presque ni là, au milieu des gens. C'est qu'il y a un esprit quelque part qui a détruit la honte. Alléluia. Amen. Et donc, ce n'est plus à cause de... Mais nous l'avons attendu nous-mêmes. Nous avons attendu Jésus. Après la prédication de la femme, Jésus est venu encore. C'est ce qu'il fait toujours, même maintenant. Comme je suis en train de parler comme ça, même si je ne suis pas digne, c'est, lui, il est là pour vous, pour les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu va capter ce que Dieu est en train de lui dire. Alléluia. Et ça sera solide. Nous l'avons attendu nous-mêmes et nous savons. Maintenant, le verbe a changé. Ce n'est plus la foi je pense ou je crois tout juste, mais je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. Et comme Job pouvait le dire, j'ai longtemps entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Amen. C'est par là, c'est là où nous devons vraiment aller. Et ça deviendra solide comme ça, car nous-mêmes, nous avons attendu Jésus, celui-là qui s'appelle Je suis, nous parler. Amen. Alors, une délivrance totale. Une délivrance totale, l'accent est surtout mis sur l'étendue. Sur l'étendue. L'étendue de délivrance. Voilà, comme ici, par exemple, nous avons parlé du corps, de l'esprit et de l'âme. Il y en a qui sont juste sanctifiés au niveau de l'esprit. C'est une sanctification, mais elle n'est pas totale. Puisqu'on doit être sanctifié jusque dans l'âme aussi. Ça, bien-aimé frère Banam a parlé d'un homme là qui prophétisait correctement. Donc, son esprit était entre les mains du Seigneur. C'était correct. Et frère Banam le disait. Mais il vivait en secret avec deux femmes. Donc, ce n'était pas encore entré dans son âme. Puisqu'il ne devrait pas faire une chose comme ça. Alléluia. Amen. Alors, nous allons maintenant voir, parce que nous venons de voir que Dieu, c'est lui qui le fait. Il sanctifie. Nous venons avec notre amour. C'est comme dans les mariages. L'homme aime et la femme aime. Et c'est ce qui fait le mariage. Toi qui es homme, la femme ne doit pas venir aimer à ta place, non. Et toi qui es la femme, ton mari ne doit pas aimer à ta place. C'est la même chose pour Dieu. Tu ne peux pas aimer, Dieu ne peut pas venir aimer Dieu à ta place. C'est un mariage. Il dit, j'aime celle qui m'aime. Il est dit clairement dans la Bible. Tu aimes Dieu et Dieu aussi t'aime. Amen. Et là, c'est automatique. Aimer Dieu. Et c'est ce qui va t'aider à voir que vraiment la parole de Dieu, c'est quelque chose de... Ça devient une merveilleuse mélodie. Ce n'est pas quelque chose qui m'embête parce que j'aime le Seigneur. Amen. Alors, comment en fait notre Dieu procède en fait pour, pour que afin pour délivrer complètement une église, une assemblée comme nous sommes comme ça. La première chose qu'il fait, il se choisit un instrument. Puisque Dieu est un, il commence par un aussi. Il choisit un instrument, donc il procède par toute une série de raccordements. Alors il va essayer de faire accorder les violons entre lui et cet instrument-là, pour qu'il puisse finalement tous émettre, donc parler, bon, être dans la même harmonie. C'est ça. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre cet homme maintenant et le placer devant l'église. Il fera en sorte qu'aussi il y ait une harmonie entre cet homme-là qu'il a utilisé comme instrument et l'église. Il faut que l'église l'accepte. Hein? Voilà. Alors, troisièmement, qu'est-ce qu'il veut encore faire? Il prend maintenant les membres de l'église. Il met une harmonie, un raccordement entre les membres de l'église. Ils deviennent comme un seul cœur. C'était ça le miracle de ceux-là qui nous ont précédés dans la première église. Ils étaient comme une seule personne. Après, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il prend toute l'église, allez. Il établit un raccordement entre toute l'église et Dieu lui-même. Ce sont ces étapes-là. Nous allons essayer de les analyser. Apprenant les types qui est justement les affaires d'Israël avec Moïse. Voyez, Acte 7, 22. Les Moïse dont nous sommes mandés de parler, on parle de lui aussi dans ce passage. Et on dit, il fit instruire dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Voilà. Il a eu une pensée à lui. Il dit non, non. Comme ma mère m'a saigné, en tout cas, nous devons être délivrés. Et c'est moi qui suis choisi de être délivré. Tout ça, il disait aussi dans les rouleaux. Voilà. Avec cette pensée-là, il est allé, dit non, non, maintenant c'est bon. Je vais aller délivrer. Je crois que c'est bon. Dieu va m'aider. Je vais délivrer Israël. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il n'a pas examiné si cette pensée, c'était en conformité avec la pensée de Dieu. Est-ce qu'il y avait un raccordement entre cette pensée et la pensée de Dieu à ce moment-là? Ça, c'est pour cette raison que nous devons toujours nous attendre au Seigneur. Dis, Seigneur, ce que je vais faire ici, qu'est-ce que tu en penses? Ce que je veux faire, Seigneur, est-ce que c'est bon? Dieu, il est réel, il va te répondre. Il va te dire, bon, voilà, ce n'est pas encore le temps. Ou bien, non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, David, qui va me bâtir le temple, la maison, cet office. Ou alors, et ainsi de suite. Hein. Donc, c'est question de communiquer avec ces dieux-là. Voilà, ce n'était pas ça maintenant pour Moïse. Moïse est allé de lui-même comme ça, allez, pouf! Mais il a rencontré des choses. Voilà, il a rencontré un premier démon par exemple, un démon d'impatience. Alors que, justement, Jésus-Christ, il nous dit, avant d'aller témoigner là, il faut attendre qu'une puissance vienne, vous revêtir. Puisque sans moi, vous ne pouvez rien du tout. Ça, Moïse s'est précipité. L'impatience lui a parlé. Monsieur l'impatient, tu fais ça vite, 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 vite. Non. Il faut consulter le Seigneur. Le Seigneur va te dire ce qu'il faut faire ou pas. Alors, il a été vaincu par cet esprit d'impatience. Il a été vaincu pourquoi? Parce que déjà, vous voyez, il a commencé même à exhorter. Hein? Mais Moïse, tu exhortes, là, tu vois, là où il exhortait, là, il dit, les jours suivants, il parut au milieu d'eux, comme il se battait, il les exhorta à la paix. Mais Moïse, tu exhortes, est-ce que Dieu t'a envoyé pour faire ça maintenant? Hein? Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins par après. Attendez d'abord. Amen. Beaucoup sont dans la précipitation. Ils n'attendent pas. Et là, c'est beaucoup les prédicateurs. Ils n'attendent pas. Il faut attendre pour que vraiment on ne soit pas un demi-prédicateur. Pour qu'on ne soit pas un demi-prophète. Dieu n'en a pas. Dieu n'a pas de demi-prophète. Dieu n'a pas de demi-prédicateur. Dieu n'a que des prophètes. Dieu n'a que des prédicateurs. Il n'a pas de demi-chrétiens. Il n'a que des chrétiens. Alléluia. Maintenant, voilà. Il y a encore un autre démon qu'il a. Là, il a été vaincu par un autre démon. C'était le démon de l'intempérance. Déjà, un petit problème comme ça. Il tue un Égyptien. Il n'a pas de tempérance. Un serviteur de Dieu doit être tempérant. Alléluia. Car Dieu t'a équipé, justement, il va te donner cette tempérance-là. Amen. Amen. Tu ne seras pas tout le temps prêt à tuer les gens. Non. Tu vas y aller doucement. Alors, il y a l'autre esprit. Voilà. L'autre esprit, c'est quoi? Quand on a commencé à lui dire, mais qui t'a établi juge sur nous? Veux-tu nous tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Il a eu peur. Il a été vaincu par la peur. Puisque Dieu n'était pas, il n'était pas dans la main de Dieu à ce moment-là. La peur a eu le dessus sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, qui était censé délivrer Israël, il a abandonné l'assemblée à son triste sort. Il est parti. L'assemblée, ce n'était plus son problème. Vous voyez, c'est ça. Donc, Moïse, partout, c'était échec à ce moment-là. Patience, échec. Tempérance, échec. Bravoure, courage, c'était toujours échec. Et pourtant, les choses ne se passent pas pour un prophète de Dieu, ne se passent pas comme ça. Donc, il s'est comporté comme un demi-prophète. Pourquoi? Justement parce que il a mélangé ses propres voix, ses propres pensées au passé de Dieu. Cela nous arrive quand nous mélangeons nos pensées au passé de Dieu. Il a dit, ces passés ne sont pas les nôtres. Ces voix ne sont pas les nôtres non plus. Amen. Cela peut arriver de devenir un prophète, un demi-prophète. Bien sûr que c'est la situation que tu manifestes, mais Dieu n'a pas de demi. Hein. Ce n'est pas l'intention que tu sois demi-prophète ou demi-chrétien. Mais c'est parce que, par exemple, tu as fait les choses au temps qui n'est pas le temps de Dieu. Ou bien, tu as fait les choses par désobéissance. Tu as désobéi. Dieu t'a dit de faire ceci. Tu as fait le contraire. Et ça, c'était le cas de Saoul. Saoul, comme il avait désobéi, partout c'était échec et échec. Il a essayé par le prophète, échec. De consulter Dieu par l'Urim Thummim, échec. De consulter Dieu par les songes, rien du tout. Et vraiment, une vie de chrétien comme ça, c'est une vie très malheureuse. Donc, tout le temps, échec, échec, échec. Quand une situation comme ça arrive, la seule chose à faire, c'est de t'arrêter un peu, de t'examiner. Tu t'arrêtes, tu commences à t'examiner, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Toujours échec, échec. Je ne sais même pas prier, j'ai prié seulement, mais il n'y a toujours rien, toujours rien. Dieu va te montrer là où hier ça ne va pas. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est ça qu'il a fait pour Moïse. Il a dit, ah, ce monsieur ici, il faut seulement une chose, il faut le tranquilliser. Comme tu dois te tranquilliser dans la prière, tu vas t'affirmer, tu dis, Seigneur, assiste-moi, montre-moi pourquoi je ne parviens pas à avoir du succès dans la vie chrétienne, du succès dans la prière, du succès dans mon témoignage. Et les gens ne viennent pas à Christ au travers de moi. Vous savez que frère Branham disait que, mais il pleurait et dit, mais je n'ai amené qu'un million, un petit million de personnes. Mais qu'est-ce que moi je peux dire? Qu'est-ce que toi tu peux dire? Tu as amené combien, ma soeur, à l'église? Mon frère, tu as amené aussi un million. Peut-être même pas un seul. Tu as encore honte de parler de Dieu à tes copains, à tes amis. Ils sont restés tout le temps des athées alors qu'ils sont toujours tes amis. Alléluia. Maintenant, Dieu l'a tranquillisé. Il a dit à celui-ci, il faut le tranquilliser. 40 ans. 40 ans, on ne parlait plus de Moïse. Dieu était en train de justement raccorder les violons. Il fallait raccorder les violons entre Moïse et Dieu lui-même pour que il sache que on ne doit pas mélanger nos passés avec les passés de Dieu. On doit rechercher la volonté de Dieu. Puisque Dieu reste toujours mystérieux, Dieu est, sa volonté est toujours un gros mystère. Sa volonté écrite est là. Par exemple, il dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ailleurs, là, il va encore dire, mais il ne faut pas imposer avec précipitation. Vous voyez comment c'est complexe, la parole de Dieu. C'est tout est complexe parce qu'il y a la volonté écrite de Dieu, il y a aussi la volonté de l'heure. Est-ce que maintenant, là, tu veux prier pour tel frère ou telle sœur, est-ce que tu es digne de prier pour lui? Donc, c'est à ce moment-là que tu t'examines. Est-ce que, oh Seigneur, j'ai fait ça. Comme frère Branham qui avait menti, mais il a osé aller imposer les mains à cet enfant-là. Il a dit, mais tu es un hypocrite. Tu ne peux pas faire ça. Voilà. Et frère Branham est allé pleurer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que sa volonté, elle est écrite, elle est là, mais il y a aussi sa volonté de l'heure. Est-ce que la personne pour qui je vais prier n'a pas quelque chose de caché qui fera que ma prière ne puisse pas être exaucée? Un péché qui est caché. Et le Seigneur peut te montrer toutes ces choses. Au lieu de prier, Seigneur, guéris mon frère. Non, tu vas aller juste à la cause de la chose. Tu dis, frère ou ma soeur, le Seigneur vient de me montrer que non, non. Avant que je ne puisse prier pour toi, il faut régler telle histoire. Voilà. Donc, Dieu est allé justement faire raccorder les violons entre lui et son serviteur. C'est dans le désert pendant 40 ans. Alléluia. Et maintenant, quand Moïse est retourné de là, c'est tout, hein. Ce n'était plus ses propres pensées. Il disait, ainsi dit le Seigneur. C'est Dieu qui parlait au travers de lui. Et plus de compromis avec le péché. Pharaon pouvait lui proposer, dit, mais je vous laisse partir, mais non, non, mais vous pouvez laisser vos femmes, vos enfants, vos vieillards et vos troupeaux. Il dit, non, non, Même si tu es Pharaon, je refuse. Pas de compromis. Pharaon a dit, bon, j'accepte, hein, j'accepte. Donc, vous pouvez maintenant, oui, partir avec tous les humains, tout ça, mais laissez-moi quand même vos brebis, là, vos troupeaux. Puisses-tu me les laisser? C'est comme il te dit, mais laissez-moi quand même un peu ce rouge aux lèvres là-bas, ces épingles dans les narines. Quand tu as l'amour de Dieu, quand Dieu t'a vraiment équipé, c'est là tu ne peux pas faire un compromis même avec cette chose que tu appelles cette petite chose. Il n'y a pas de petite chose pour Dieu. Pas de compromis. C'est ça, Moïse, ce qu'il est devenu après les 40 ans là. Amen. Maintenant, là, Dieu vient de faire les raccordements là. Il a accordé les violons entre Moïse et lui-même. Mais il y a encore un grand problème. C'est entre Moïse maintenant et l'assemblée. Vous savez que c'est un grand problème pour Dieu d'amener un mortel, de croire à un autre mortel comme étant un serviteur de Dieu. Dit, mais lui, qu'est-ce qu'il se croit? Qu'est-ce que ben, lui, il cogne sur le péché comme ça? Est-ce que lui ne pêche pas? Mais justement, Dieu n'a pas autre moyen de faire. Il utilise des hommes faiblards comme toi et moi pour que nous puissions nous entraîner et nous entraider. Il n'a que ce moyen-là. Il n'utilise pas des anges qui viennent du ciel, non. Mais il va utiliser toujours des hommes-là pour lesquels vous voyez beaucoup d'imperfections, même celui-là. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Voilà. À partir du moment où vous êtes en train de dire ça, alors, Pharaon, Dieu travaille davantage le cœur de Pharaon pour que, justement, il continue à vous maltraiter davantage. C'est ce qu'il avait fait. Vous voyez, donc, il n'y avait pas encore d'accord entre Moïse et l'Église et les affaires d'Israël. C'est ce qui est montré ici. Hein. Il dit, qui t'a établi, c'est là, oui, voilà. Il pense que, oui, au verset 27 de Acte 7. Mais celui qui maltraitait son prochain, le repoussant, en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Nous, là, c'est vraiment l'Assemblée. Il n'a pas dit sur moi. Il dit, l'Assemblée n'accepte pas certaines choses. Ah! Il y a certaines choses qu'il accepte, d'autres il accepte. Il faut accepter tout puisque c'est la parole de Dieu. Même si c'est dur, il faut être comme Pierre. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Hein? C'était très dur pour tous. Hein? Mais Pierre a dit, mais tu veux que j'aille encore où là? C'est toi qui es ma vie. C'est toi qui es ma force. C'est toi qui es ma puissance. Je ne suis rien sans toi. Amen. Quand Dieu voit ça, il dit, voilà. Ça, c'est quelqu'un que je peux maintenant utiliser. Voilà. Donc, qui t'a établi chef et juge sur nous? Voilà. Quand Dieu a vu ça, il dit, ah bon? Donc, on rejette mon serviteur. C'est ainsi que tous les serviteurs de Dieu priaient comme ça. Hein? Comme Élie. Dis, Seigneur, qu'on sache aujourd'hui que toi, tu es Dieu. Ça, c'est un, sur Israël. Mais aussi, que moi aussi, je suis ton serviteur. Fais en sorte que l'Église sache que je suis ton serviteur. Hein? Un autre problème, quand Jésus était venu sur la terre, il dit, mais pour quelle bonne œuvre vous voulez me lapider? Il dit, non. Ce n'est pas pour une bonne œuvre, Jésus. Mais toi qui es un homme, hein? Comment un homme peut dire qu'il est Dieu? Comment un homme, hein? Pardonner les péchés. Non. Nous n'acceptons pas ça. Voilà. Difficile, hein? C'est ainsi que Dieu va tout faire pour faire accorder les violons entre celui qui prêche et toute l'Église. Et quand ces violons seront vraiment accordés là, vous verrez, il y aura des choses. Mais il y en a toujours qui critiquent, toujours, mais lui aussi, qu'est-ce qu'il pense? N'est-ce pas? Voilà. Alors, Dieu a aussi ça et dit, bon, voilà, comme vous avez rejeté mon serviteur, je vais et davantage toucher le cœur de Pharaon. Et Pharaon est devenu beaucoup plus méchant. Il y a eu des pénibles travaux. Ah, avant, leurs prières, c'était des prières formalistes, là, Seigneur, après avoir mangé beaucoup des ailes de l'Égypte, là, Seigneur, la nuit, là, oh, bénis-nous. Amen, amen. Il oublie même de dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, tellement qu'il est rempli de la viande d'Égypte. Voilà. Donc, des prières et formalistes. Il y a des prières aussi qui ne sont même pas formalistes, mais juste prier par intelligence. Vous savez que nous devons pas seulement prier par intelligence, mais par esprit aussi. Voilà. Donc, si c'est juste par intelligence, le Seigneur n'est pas encore là. Il faut que ce soit par esprit. Et les enfants sont des spécialistes à cette matière. Ils te demandent, donne-moi. Achète-moi, papa, achète-moi un gâteau ou quoi. Dis, mais je n'ai pas l'argent. Achète un gâteau! Mais ça signifie quoi? Ça, c'est notre langage. Il est entré en esprit. C'est la même prière, mais en esprit maintenant. Ça signifie quoi? Tu ne sauras pas interpréter ça dans le vocabulaire humain. Il est en esprit, cet enfant. Mais souvent, nous n'arrivons pas à ça, à ce niveau-là. Mais Israël, comme on a vraiment serré les vis, Israël a commencé à gémir. Ça, c'est dit clairement. Il a commencé à gémir. Délivre-nous. On n'entendait même plus les paroles. Et Dieu dit, c'est ça. Ils étaient maintenant poussés à bout. Alléluia. C'était plus des prières formalistes. C'était plus des prières intellectualistes. C'était maintenant un esprit. Il commençait à gémir. Et Dieu a dit, maintenant, oui, j'ai attendu. J'ai entendu le cri de mon peuple et je suis venu pour les délivrer. Puisque maintenant, ils ont compris. Ils ont compris qu'on est, on ne rejette pas un instrument de Dieu. Avons-nous cet instrument. Mais vous l'avez rejeté. Maintenant, nous avons compris. Ben oui, c'est comme ça. C'est parce que, justement, Dieu a vissé quelque chose quelque part là-bas. Alors, ils ont commencé à gémir. Et Dieu a attendu la prière. Il a envoyé Moïse. Là, les violons venaient de s'accorder. Entre Moïse et l'Église, voilà, il faut que ça s'accorde toujours entre le prédicateur et l'Église. Amen, amen. Maintenant, alors, il y a un autre problème. L'Église peut être là, mais il y a des gens qui ne s'attendent pas. Hein? Vous voyez, il dit, c'est acte 5, hein? Ouais, on va y aller vite, vite. Acte 7, il dit, au verset 24, il a vu un qu'on outrageait, verset 6, le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme il se battait. Des frères qui se battent. C'est des demi-chrétiens. Ils ne comprennent pas ce que ça signifie un frère à Christ. Ils ne comprennent pas ce que ça signifie une sœur à Christ. Ils se battent. Ça, c'est demi. Vous n'avez jamais vu l'oreille se battre avec l'œil. Vous n'avez jamais vu la langue se battre avec les dents. Même si quelquefois les dents blessent là, mais quand ça blesse, mais tout le monde, le corps vient au secours. Hein? Voilà. Donc c'était encore des demi-chrétiens et Dieu ne voulait pas ça. Comme il se battait comme ça, Dieu a dit voilà. je veux aussi qu'il y ait vraiment un accord. Dans toutes ces choses-là, c'est l'accord. La Bible dit qu'ils étaient de commun accord. C'est ainsi que le Saint-Esprit était descendu. C'est ainsi que, par exemple, là, on a pris beaucoup de temps de lire. Dans Marc 11, verset 5 à verset 6, il est dit, par exemple, si vous avez quelque chose, vous voulez prier, mais vous avez quelque chose contre un frère ou une sœur, il ne faut pas continuer à prier. Quand vous continuez à prier, là, vous serez seulement un demi-chrétien. Vos prières ne seront pas exaucées tout le temps. Ah, on prie toujours. Mais c'est parce que vous ne faites pas les choses comme Dieu le demande. Et quand vous voyez ça, il faut pardonner. Et quand un frère a quelque chose contre toi, non, quand vous avez quelque chose contre un frère, pardonnez d'abord. Il faut aller réparer. C'est ça, donc, vous vous tranquillisez d'abord. On a l'habitude de faire des choses avec précipitation. Mais à partir d'aujourd'hui, ne faisons pas ça comme ça. Et nous allons voir des changements. Tu t'examines d'abord. Tu fais des choses comme ça, étape par étape. Seigneur, est-ce que je suis vraiment sonde mon cœur? Est-ce que vraiment tu permets que je puisse prier pour ce frère? Mais je vois qu'il y a une condamnation quelque part. Mais il nous arrive de prier avec toutes ces condamnations. Alors, nous allons avoir des demi-victoires, des soi-disant. Il n'y en a pas de demi-victoires. Nous allons être des demi-chrétiens, des demi-églises. Mais même, quand bien même, voilà, c'est toi. Toi, tu as quelque chose contre un frère. Donc, un frère a quelque chose contre toi. Ça, c'est Marc 11. Non, ça, c'est Matthieu 5. Il dit, laisse là ton offrande. Il faut pas prier. Prier, ça ne sert à rien, ou prêcher. Arrange d'abord la chose. C'est comme, avant de venir du haut de la chair, là, il faut d'abord chercher la face du Seigneur. Seigneur, est-ce que vraiment... Tu me pardonnes ça, parce que j'ai encore ça. Pardonne-moi ça, afin que tu puisses m'utiliser comme un instrument devant tes enfants. Et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Il faut maintenant, les enfants de Dieu sont maintenant raccordés. Enfin, il y a les violons sont accordés entre les enfants de Dieu. Vous savez qu'on n'a plus tellement le temps de lire. Ils étaient vraiment tellement raccordés que le jour où on devait immoler l'agneau là, avant qu'il ne puisse quitter l'Égypte, ils pouvaient justement, les familles qui étaient moins nombreuses pouvaient partager avec les familles qui étaient plus nombreuses. Voilà, la communion fraternelle était revenue et l'amour fraternel était revenu. Dieu pouvait faire quelque chose. Donc, Dieu... justement, a mis cet accord-là entre les frères. Il faut que cet accord soit au milieu de nous. Et nous allons voir des choses. Aussi longtemps que nous n'avons pas ça, il n'y a rien qui pourra se faire. Frère Branham le disait toujours, et je le répète souvent, que le secret de son ministère, c'est qu'il se plaçait, il se mettait à la place de son frère, de sa sœur. Aussi longtemps que la souffrance de ton frère là n'est pas ta souffrance. Tu vas seulement faire des prières formalistes. Hein? Seigneur, guéris ses frères. Ça, c'est seulement entre les lèvres. Puisque le Seigneur sait bien que dans ton cœur, là, tu es en train de passer à ton téléphone. Dans ton cœur, tu es en train de passer à la machine à laver. Dans ton cœur, tu es en train de passer à ton travail. C'est la chose qui est dans le cœur qui a beaucoup plus de valeur. Quand tu pries, que ton frère soit dans ton cœur. Alléluia. Que dans le cœur, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien du tout. Alors tu verras, il y aura quelque chose qui va se passer. Que Dieu nous assiste vraiment. Amen. Amen, amen. Alors maintenant, c'était la fin. Il fallait maintenant qui est un accord entre toute l'Église et Dieu lui-même. Cet accord-là s'est fait par le sang. Dieu a dit, voilà, je vais appliquer le sang maintenant sur le linteau. Et tous, soyez là-bas, sous le sang. Alors, il y a eu cet accord-là. C'est justement après ça qu'il y a eu la délivrance totale, complète. Israël a complètement quitté l'Égypte. Il a quitté tout ça parce qu'ils se sont retrouvés vraiment dans un accord parfait avec Dieu. Ils ont commencé même à obéir à Moïse. Si vous lisez là-bas, ils ont commencé à obéir à Moïse. Et quand ils sont devenus un comme ça, tout le monde avait la puissance. Vous savez que avant de sortir là, ils ont chaque membre là. Donc les Égyptiens avaient peur, pas seulement de Moïse, mais de chaque Israélite. Le démon va avoir peur de chaque membre de l'Église. Même nos petits-enfants là, disent non, ils ne peuvent rien parce qu'il y a tellement une unité, il y a une chaîne. Vous savez que la solidité d'une chaîne se mesure par son anneau le plus faible. C'est ainsi que Dieu solidifie tous ces anneaux-là afin que le diable ne puisse vraiment pas avoir le temps de s'introduire au milieu de nous. Amen. Je crois que là, nous allons nous arrêter. Oui, nous allons nous mettre debout et nous allons, les gens qui sont sur le même bas là, les mêmes rangées chaque fois, ils vont se tenir les mains dans les mains pour faire le signe de la chaîne. Pour demander à Dieu que vraiment il puisse y avoir un vrai accord au milieu de nous. L'accord là, ce sont les réconciliations. Il ne faut pas écouter le diable qui va te dire, va à l'église mais ne pardonne pas à tel frère ou à telle sœur. Là, il est en train de vouloir te détruire et de détruire l'église. Vous allez vous tenir les mains comme ça et nous allons dire au Seigneur de placer cet accord au milieu de nous. Cet accord entre Dieu et les prédicateurs. Cet accord entre les prédicateurs et l'Assemblée. Cet accord entre les fidèles entre eux. Cet accord entre toute l'Église et Dieu lui-même. Que Dieu nous assiste afin que ce soit ici. L'accord, c'est quoi? Être sous le sang. C'est que la chose là que tu sais que Dieu n'aime pas, pardonne-moi Seigneur, tu vas réparer ça. La chose que tu sais que non, ça ne va pas avec ses frères. Tu peux même aller les trouver, dire, mon frère, pardonne-moi. Et tu pardonnes aussi à ceux-là qui t'ont offensé. Alors, nous allons nous tenir les mains dans la main. Moi, je vais me tenir avec celui qui est près de moi ici. Alors, nous allons prier. Prions le Seigneur que Dieu nous accorde cet accord et que vraiment les choses inhabituelles puissent vraiment se manifester en abondance au milieu de nous. Les choses venant du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous nous tenons les mains chacun avec l'autre. Puisque nous avons compris, mon Dieu, que c'est ce que tu fais pour qu'il puisse y avoir un véritable réveil au milieu de nous. Pour que, Seigneur, il puisse y avoir, ô Dieu, une délivrance totale et complète. Seigneur, nous avons compris que tu n'as pas de demi-chrétiens. Nous avons compris que tu n'as pas de demi-église. Nous avons compris que tu n'as pas de demi-prophète. Nous avons compris que tu n'as pas de demi-prédicateur. Puisses-tu nous venir en aide, Seigneur. Oh Dieu, afin que nous puissions cesser de vivre à dessein de nos privilèges. La Bible témoigne clairement, Seigneur, que tu as mis tout sous les pieds de Jésus-Christ. Oh Dieu, et pourquoi nous sommes encore comme déjà vaincus? Toi qui es celui qui avait aidé Moïse. Et oh Dieu, que tu puisses nous aider aussi, Seigneur. afin que, Père, nous puissions cesser d'être des vaincus. Oui, Seigneur, ta victoire, c'est la nôtre. Puisses-tu nous accorder afin que ça puisse être ainsi, mon Seigneur. Dieu, accorde-nous cela, afin que prochainement, quand tes fils et tes filles viendront, oh Dieu, qu'ils puissent témoigner en disant que maintenant là, cette chose que j'avais comme gain, c'est maintenant un dégoût pour moi. Oh Dieu, accorde-nous cela. Jésus, accorde-nous. Bénis tes enfants qui sont venus t'écouter, Seigneur. Oh Dieu, accorde. Alors que, Seigneur, je te le demande ici au nom de Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, tu es bon pour moi. Tu nous as parlé, tu nous as parlé, tu nous as parlé. Jésus Christ, tu es mon Dieu. Oh mon Seigneur, tu es bon. Tu nous as délivrés. Tu nous as délivrés. Tu nous as délivrés. Tu es bon. Oh mon Dieu. Continue à chanter comme ça. À petite voix, moi je vais prier. Dieu notre Père. Combien tu es bon. Oui, Seigneur, c'est puisque tu nous aimes que tu as envoyé même un prophète dans cet âge. Oui, nous avons vu combien tu l'as utilisé avec puissance. Oui, c'était un prophète complet. Ce n'était pas un demi-prophète. Maintenant, Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses nous venir en aide, mon Dieu. Toi qui es le beau Dieu, afin que, Père, nous puissions cesser d'être des demi-chrétiens. Nous puissions cesser d'être une demi-église. Nous puissions cesser d'être, oh Dieu, des demi-diacres, des demi-ceci ou cela, Seigneur. Oh, puisque il n'y a pas de telles choses pour toi. Mais Seigneur, quand tu délivres complètement. Quand tu le fais, Seigneur, tu le fais de la manière la plus totale possible. Seigneur, si nous avons parlé ici, c'est puisqu'il y a encore tellement de choses en nous. Seigneur, avec lesquelles nous continuons à lutter, nous sollicitons auprès de toi une délivrance totale et complète. Que Seigneur, nous puissions cesser d'écouter le diable. Qui va nous dire, vous pouvez aller à l'église, mais ne pardonnez surtout pas la sœur Jones. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions lui résister comme la Bible le dit. Puisque la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Merci Seigneur, nous croyons que tu nous as bénis mon Dieu et que prochainement quand nous viendrons, nous serons des personnes complètement changées et nous allons commencer à voir tellement de choses du royaume puisque tu les as mis à notre disposition pour que nous puissions les vivre, Seigneur. Nous devons cesser de vivre à-dessous de nos privilèges. Merci Seigneur. Écoute, ô Dieu, ce cantique que tes enfants sont en train de chanter pour ta gloire. Ils savent que tu es bon. Et comme ils t'ont soumis les requêtes, tu les as écoutés et tu vas nous donner ce que nous t'avons demandé, Seigneur. Tu es venu avec nous. Retourne encore avec nous, Seigneur. Une fois, il y a eu Zachée qui était venu à l'église. Tu es celui qui était retourné avec lui jusque dans sa maison. Seigneur, fais de même pour chacun d'entre nous, afin que la puissance de ta parole puisse nous accompagner partout. Merci, Seigneur. Nous te le demandons ici au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Merci. Bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Retournons dans la paix du Seigneur. Amen, amen.